I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous présente Barthélémy qui a 27 ans. Quand je dis à la fin du podcast, pour inciter les darons qui voudraient venir raconter leur histoire à mon micro, je me cite, entre guillemets, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu impart, je ne pensais pas qu'un papa comme Barthélémy m'enverrait un mail. Et pourtant, il l'a bien fait. Alors je ne vous en dis pas plus, le titre du podcast vous a sans doute déjà mis la puce à l'oreille et il racontera beaucoup mieux que moi son histoire, mais à titre perso, cette discussion m'a subjugué. J'espère qu'elle vous plaira tout autant qu'à moi. L'info de cette semaine à propos du podcast, c'est qu'Histoire de Daron deviendra bientôt une partie intégrante de mon projet de futur magazine web, qui sera un magazine entre guillemets post-mademoiselle. Pour l'instant, son autre code est Projet Madame, ça avance bien, ça devrait sortir dans quelques mois et vous pouvez d'ores et déjà vous abonner pour recevoir des nouvelles de la création du projet par email. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire pour suivre la création de ce magazine. Vous connaissez la ritournelle ensuite. Si vous aimez Histoire de Daron, vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez vous abonner sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast, Overcast sur iPhone ou alors Podcast Addict, Google Podcast ou aussi Overcast sur Android, mais aussi sur Deezer, Spotify, SoundCloud ou même YouTube. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes de cet épisode. Et je vous précise que même si vous écoutez en podcast, surtout n'hésitez pas, vous pouvez venir laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube, ça me fait toujours un immense plaisir de recevoir des commentaires. Je vous mets l'adresse de la chaîne également dans les notes. Enfin, si le concept vous plaît, vous le savez, vous vous en parlez autour de vous, vous partagez sur vos réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Et bien sûr, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, vous m'écrivez un mail sur histoire avec un S de daron avec un S @gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Je vous laisse en compagnie de Barthélémy. On est avec Barthélémy, salut!
Salut Fabrice.
Ça va?
Ouais, super, et toi?
Ça va très bien. Barthélémy, tu m'as, pour expliquer un petit peu, tu m'as contacté il y a quelques mois maintenant, ouais. Quelques semaines, pour m'expliquer à quel point tu trouvais que Histoire de Daron c'était cool. et puis pour me parler de ton projet, t'as monté une start-up en fait, avec pour aller très rapidement parce que c'est pas forcément l'objet, mais t'as monté une appli de rencontre en fait, on va dire un peu, avec un peu de valeur ajoutée où t'essaies d'y mettre de l'humain, c'est ça?
Exactement, ouais. Exactement.
Donc tu veux me raconter un peu ça, on s'est rencontrés à la base pour ça,
ouais.
Avec ma casquette de mademoiselle, et à la fin de cette interview tu m'as dit, alors moi j'ai une histoire de daron un peu particulière mais j'ose pas trop la raconter. Je t'ai dit, ok, tu m'as expliqué 3 minutes vraiment, et je t'ai dit, viens quand tu veux,
ouais.
Tu m'as dit, je vais prendre le temps, je t'ai laissé le temps, et te voilà maintenant.
C'est vrai, j'ai pris le temps, ouais.
Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Ben, je vais avoir 28 ans dans quelques jours. Et je considère que je suis quelqu'un de très généreux, très ambitieux et j'ai beaucoup de chance aussi dans la vie.
Voilà. Très ambitieux, ça veut dire quoi?
J'ai envie de faire beaucoup de choses dans ma vie et j'ai envie de checker plein de petites croix sur ma to-do list. Voilà, j'ai plein de rêves et j'ai envie de tous les accomplir. Donc voilà, je considère que c'est l'ambition.
T'as des checks que t'as mis dans ta to-do list, c'est devenir papa.
C'était pas du tout dans ma to-do list. C'était pas du tout dans ma to-do list et c'est vrai que c'était complètement imprévu. Ça m'est arrivé hyper jeune, parce que j'ai appris que j'allais être papa à 22 ans. C'était complètement inattendu.
Tu n'as pas eu donc d'envie d'enfant particulière. T'as pas eu le temps, en fait, d'un coup d'un seul.
À l'époque, j'y pensais pas du tout. Clairement, j'étais jeune, j'étais un peu insouciant. J'ai terminé une année d'école, en fait. Et je suis parti un an vivre en Thaïlande pour un Erasmus. Et du coup, bah, j'étais plutôt dans les voyages, dans comment est-ce que je vais construire ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je me posais beaucoup plus ce genre de questions. Et en fait, au bout d'un moment, bah, j'en avais marre de la Thaïlande. Je vivais à Bangkok. Je sais pas si tu connais comme ville.
Pas du tout. Je connais ni la Thaïlande ni Bangkok.
Mais autant la Thaïlande, c'est un pays très agréable, autant Bangkok, c'est une ville hyper éreintante, hyper fatigante. Tu vois, il fait très chaud, il y a beaucoup de monde. Un coup ça pue, un coup il y a la clim à moins 10 degrés. C'est très consommateur d'énergie et puis en plus, énormément de vices quoi, tu vois, qui sont un petit peu partout, parce que c'est une ville qui a une réputation sulfureuse assez méritée quand même. Et du coup, j'avais envie de rentrer. Et on était plusieurs à vouloir rentrer, et on s'est pris une petite coloc, et on fête notre départ 5 jours avant de moi mon départ, et le lendemain, je crois qu'il y avait mon ancien coloc de l'époque qui partait le lendemain, et on va en boîte. Et on fait la fête, et voilà, et t'imagines 5 garçons très jeunes, presque encore ados, et je me suis retrouvé tout seul dans cette discothèque un petit peu lugubre, et là j'ai vu une fille qui me faisait des grands sourires et qui me dit viens là, et en fait on a passé mes 5 derniers jours en Thaïlande ensemble, et il s'avère que il y a un soir on s'est pas protégé. Et voilà, elle savait que je rentrais, elle savait que derrière je commençais un job, que ma vie redémarrait un petit peu de zéro. Et un mois après, elle m'envoie un message et elle me dit « Coucou Bart, toi t'avoues un truc, je suis enceinte et je suis sûr que c'est toi. » Donc là, effectivement, petit coup de massue sur la tête.
Mais un petit... C'est pas possible que ce soit un petit coup de massue.
Non, c'était un très gros coup de massue. Ouais, je t'avoue, je m'y attendais pas du tout. J'étais pas prêt, c'était pas dans mes plans, quoi. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Et en fait, au début, je me suis dit, j'en ai parlé que à mes parents, quelques amis aussi très proches, et j'ai fait face à beaucoup d'incompréhension. Déjà parce que en Thaïlande, il y a une réputation qui fait que c'est un petit peu particulier. Quand tu tapes avoir un enfant en Thaïlande, les premiers forums sur lesquels tu tombes, c'est pas très joyeux.
Tu veux dire, pour expliquer, sois explicite, il faut dire, on appelle un chat.
T'as raison, ouais. Écoute, je pense que le mieux, c'est d'expliquer un petit peu l'histoire de la Thaïlande. Disons, c'est vrai qu'ils ont un passé vis-à-vis de la prostitution et du marché de la femme qui est très riche. Ça a commencé avec la Chine dans les années 500, où il y avait des empereurs chinois qui venaient se servir de filles, et puis le roi de Thaïlande, qui était le royaume de Siam à l'époque, a dit non, maintenant si nos femmes sont belles, elles restent, mais vous devez payer sur place. Puis après, il y a eu la guerre du Vietnam, beaucoup plus récemment, avec les soldats américains qui venaient au port de Pattaya. Et depuis une vingtaine d'années, avec l'explosion du tourisme, du visa retraite, du visa expat, il y a beaucoup d'hommes qui rencontrent des femmes thaïlandaises. Et en fait, c'est devenu un vrai moyen de promotion sociale, tu vois. Faut surtout pas généraliser, mais c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ça dans la tête de certaines femmes, notamment des régions très pauvres. Praya, la mère de mon fils, avant que je la rencontre, elle utilisait son corps pour se gagner sa vie. Mmh. Et elle avait quelques hommes blancs, appelons-les comme ça, qui lui envoyaient de l'argent tous les mois pour être sûr que quand eux ils viennent voyager en Thaïlande pour leurs vacances, pour être sûr qu'elle soit là. C'était sa principale source de revenus. Donc t'imagines que une femme enceinte vis-à-vis d'eux, la relation, elle, c'est un petit peu compliquée. Donc même elle, c'était très dur pour elle aussi. On a eu tout de suite un rapport, elle et moi, un peu conflictuel, parce qu'on devait régler beaucoup de problèmes, tu vois, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de distance, des problèmes de culture. Et mes parents, face à ça, et mes amis, fais attention à toi, en fait. Ils ont eu une approche hyper protectrice et du coup un peu méfiante. Mes parents sont des grands sceptiques. Moi, je le suis beaucoup moins avec le temps. Leur premier avis, c'était « Fais attention, vérifie que c'est bien le tien, te laisse pas mener en bateau, ne crois pas tout. Fais attention à toi, quoi. »
Et quid du jugement aussi.
Ouais.
T'en parles pas, mais...
Ouais, mes parents.
Parce qu'en fait, est-ce que t'as une relation, pour être très honnête, est-ce que t'as une relation tarifée avec cette fille à l'époque?
Jamais.
Jamais, c'était pas ton objectif. Ouais. Ok.
C'est un des trucs que j'avais oublié de dire quand je parlais de la Thaïlande, c'est que ils ont une approche du corps et de la relation sexuelle qui est très différente. Tu peux avoir une fille qui un soir va rencontrer un super jeune homme qui lui plaît et elle va se dire je rentre avec lui ce soir, ça se passe bien. Et puis quelques semaines plus tard, rencontrer un vieux boujou, un peu macho, pas du tout sympa, et elle va sans aucun scrupule lui dire bah écoute, si tu veux rentrer avec moi, bah c'est temps quoi.
Okay.
Et moi j'étais dans le premier cas.
Okay.
C'était une amourette de vacances quoi.
Ouais.
Cinq jours de, c'était très cool. On a beaucoup rigolé. On s'est confié énormément de choses sur nos vies. Elle m'a dit tout de suite qui elle était, tu vois, et ce qu'elle faisait, et comment elle se rémunérait. Et je lui dis, mais en fait, c'est quoi ton métier? Est-ce que tu te considères comme, j'aime pas le mot, mais est-ce que tu te considères comme une prostituée?
Mm.
Elle me dit, non, I'm looking for a boyfriend, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était aussi un moyen d'ascension sociale, que c'était un moyen de survivre aussi, parce que les études coûtent très cher là-bas. Elles sont pas réservées à tout le monde comme en France, et que bah quand tu viens d'un petit village, le meilleur moyen de gagner ta vie, c'est de partir à Bangkok. Et les endroits où il y a beaucoup de travail pour les filles, bah c'est les bars, les clubs, voilà. Certaines tombent dedans vraiment fort, et puis d'autres,
ouais.
Chacune gère un peu comme elles veulent, mais du coup il y a énormément de possibilités, tu vois. Mais on peut pas du tout tomber dans la caricature du marché du sexe avec la Thaïlande. Il y a des vérités, mais il y a énormément j'ai vu énormément de situations différentes.
Ouais. Okay.
Donc le jugement pour en revenir là.
Oui.
Mes copains ont été super cool au début parce que ils m'ont posé énormément de questions. C'était des questions auxquelles c'était dur de répondre pour moi à l'époque. Aujourd'hui, aucun souci, tu vois, je suis hyper heureux. Mais à l'époque, c'était compliqué.
Pourquoi c'était compliqué?
Bah, tu vois, c'était comme je te disais, c'est pas des questions auxquelles je m'attendais, quoi. Est-ce que tu veux être papa? Est-ce que tu veux retourner en Thaïlande? Est-ce que t'as envie qu'elle vienne? Est-ce que si c'est le tien, tu t'engages à 200% à être son papa et tout? Il fallait que je me pose ces questions. Et ils ont été très cool de pas beaucoup en parler au début. Et du coup, c'est resté très intime. Donc moi, je me suis dit, bah, pour répondre un peu à ces questions, je vais y aller. Et là, j'y vais et ça se passe très mal. On passe du statut amourette de vacances où on rigole, c'est léger, c'est sympa, à on doit faire des plans de vie, on doit se structurer, on doit s'organiser. Et moi, j'étouffe, ça va pas. Et...
Tu vas trop vite parce que, en fait, entre temps, il y a quand même un vrai truc. C'est
ouais.
Tu décides de t'engager dans... Enfin, en fait, le simple fait de retourner en Thaïlande, c'est déjà pour toi une forme de... En fait,
ouais.
Je vais faire en sorte de... enfin, d'avoir une... Je sais pas, en tout cas, d'avoir une relation avec cette fille pour voir si je peux reconnaître cet enfant éventuellement, quoi.
Ouais.
Mais ça, le chemin, tu le fais comment dans ta tête? Tu peux pas... C'est trop rapide. Tu peux pas dire juste... Ouais, je suis allé en Thaïlande. Et puis après, on s'est un peu embrouillé parce que quand même, qu'est-ce qu'on allait avoir comme chien? On ne savait pas. Non, c'est trop vite, trop vite. Comment ça s'est goupillé dans ta tête?
C'est vrai, ouais, t'as raison, je suis allé un peu vite sur cette partie-là.
Mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Hein.
Mais en gros, je me suis vite rendu compte qu'il y avait deux cas de figure. C'était soit j'assume et j'essaye de trouver des solutions aux pseudo-problèmes qu'il y avait, soit je nie en bloc et j'oublie. Et puis de toute façon, elle est à 12 000 km, il suffit de bloquer les gens sur Facebook et sur WhatsApp, et puis t'oublies. Et je me suis pendant de longs mois, je me suis posé la question, quoi. Et en fait, j'ai eu une copine qui m'a dit, qui m'a posé une super bonne question, qui m'a dit, mais est-ce que tu serais prêt à accepter que ta chair, une partie de toi, ne jamais connaître, qui sait, ne jamais être certain déjà que c'est ton enfant, et est-ce que tu te sentirais bien avec l'idée de refouler ça un peu toute ta vie? Et le lendemain matin, je me suis levé, je crois que j'ai passé 30 minutes devant ma glace. Et la réponse, elle était évidente, en fait. C'était non, de toute façon, je pourrais pas vivre avec ça. Et même si je pourrais y arriver maintenant à court terme, je pense que quand ce genre de truc revienne au galop plus tard, tu te prends... Je pense que tu traverses des moments très durs. Donc je préférais essayer d'assumer tout de suite que ça soit un petit peu compliqué et de revenir et d'être heureux sur le long terme plutôt que d'essayer d'enfouir quelque chose sur le court terme. Et dès que j'ai eu cette réflexion, Bah, il y a eu un espèce de plan qui s'est un peu déroulé devant moi, un tapis où je me suis dit, je vais prendre les étapes une par une. La première, c'est j'y vais, je vérifie que c'est bien mon enfant, je vois si j'ai envie de rester, je vois si on peut faire un couple, créer une famille plus conventionnelle. Et si c'est pas le cas, bah on trouvera une autre solution, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être heureux et d'essayer de construire quelque chose sur le long terme. Et manque de bol, quand j'y suis allé, ça s'est pas bien passé. Mais très vite, je me suis dit, bah, c'est pas grave, en fait, finalement. J'ai pas de modèle autour de moi qui a fait ça, mais je peux le créer, ce modèle-là. Je pense que...
Pourquoi ça s'est pas bien passé, en fait? Parce que t'essayais de plaquer un... Comment dire, t'essayais de plaquer ton plan sur sa vie à elle, c'est ça, à ce moment-là?
Ouais, je pense. Il ouais. Y avait beaucoup de trucs que je pouvais... Enfin, et j'assume à l'époque que j'assume... Enfin, il y avait beaucoup de choses que je n'assumais pas. Je...
Comme quoi?
Son passé, à elle. Je sais pas que j'en étais pas fier, mais tu vois, j'étais un petit peu gêné par rapport à ça. J'avais des craintes du coup aussi pour mon fils. Je me suis dit, mais dans quel contexte elle va grandir? Je connaissais pas sa famille, je connaissais pas son environnement, je connaissais pas sa structure, ça aussi c'est la façon dont elle avait été éduquée, et donc par un petit peu corrélation, elle éduquerait avec moi Nakin, puisqu'il s'appelle Nakin, j'ai toujours pas dit son prénom.
On ne sait pas encore si c'est une fille ou un fils. Tu l'as même pas dit, je pense que t'as parlé de ton.
Je crois que j'ai dit mon fils.
Ah bah oui. D'accord.
Et ouais, du coup, j'avais plein de petites craintes. Ta question, c'était...
Qu'est-ce qui faisait que ça s'est pas bien passé, tu penses, cette première rencontre-là, effectivement, une fois que t'as passé l'aspect... amourette de vacances, comme tu dis, et qu'à un moment donné, il faut rentrer dans qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant.
Ouais.
Ça devient un peu plus sérieux, quoi.
Ouais, exactement. Bah, tu l'as très bien dit, j'ai essayé de calquer mon plan sur un problème existant. Et il y a beaucoup de choses qui se font dans la vie par des compromis. Et là, je devais faire beaucoup de compromis, elle aussi. On n'était pas prêts à les faire à ce moment-là. Et c'est venu assez naturellement que. Je serai papa, mais au début, à distance, que je pourrais venir quand je veux, que j'aurai quand même des responsabilités, que ce soit financière, que ce soit administrative, que ce soit paternaliste aussi. Notamment parce que Praya, la mère de mon fils, elle a jamais connu son père à elle. Donc je pense qu'elle en a souffert. Et qu'aujourd'hui, elle en souffre encore. Et du coup, elle avait. Et j'ai énormément de chance à ce niveau-là. C'est qu'elle a toujours eu envie, même si elle et moi, ça se passait pas très bien. Elle a toujours eu envie, au fond d'elle, que son fils connaisse au moins qui est son père, d'où il vient, quelle culture il a, et qu'il puisse participer à son éducation. Donc, ça s'est pas bien passé parce que. Énorme différence de culture, d'éducation.
C'est quoi les trucs sur lesquels vous butiez? Enfin, si t'as un exemple comme ça qui puisse être concret pour comprendre.
On se rend pas compte, mais la religion, par exemple. Tu vois, moi, je suis pas croyant, mais en France, on a une forte culture et passé assez chrétien, judéo-chrétien, je dirais même. Donc, c'est les obligations de Noël, le dimanche on est ensemble. En France aussi, et en Europe, je trouve qu'on est ultra protecteur avec nos enfants. Un des faits marquants, c'est que j'ai été incapable de mettre mon fils dans une poussette avant une histoire que je te raconterai après. Mais pendant plusieurs fois, quoi, des crises énormes, parce que là-bas il est jamais attaché. Dès qu'il se tenait droit, il montait sur un scooter sans casque avec sur les genoux de sa mère. T'imagines que la première fois que j'ai vu ça, j'étais alors que je l'avais vu plein de fois là-bas, tu vois, j'avais vu des fois ils étaient 5 sur un scooter, le plus grand au volant, enfin au guidon, il devait avoir 12 ans, et puis toute la famille derrière. Et quand ça m'est arrivé, je fais waouh, mais attends.
Quand c'était ton propre fils.
Ouais, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vas pas faire ça. Au moins, mets-lui un casque, attache-le, fais super gaffe. Tu stresses, quoi.
C'est dû à quoi pour toi cette différence de rapport à la sécurité?
Ben, Praia, elle a grandi dans une région très pauvre de la Thaïlande qui s'appelle Lisan, qui est au nord-est, toute la partie avec la frontière du Laos. Et c'est vraiment une région très pauvre. Et très très vite, les enfants sont autonomes. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger. Les plus gros dangers qu'il y a, c'est les oies qui te pincent les doigts si tu les approches, ou les chats qui te grisent si tu leur tires la queue, tu vois. Et tu vois, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de... ils ne regardent pas la télé, donc ils ne voient pas des thrillers qui font un peu flipper et qui créent de l'angoisse. Il n'y a pas... tout le monde se connaît. Tout le monde est plutôt bienveillant les uns envers les autres. Il y a donc les enfants sont hyper autonomes et très vite tu vois des enfants dans la rue, ils ont 1 an, 2 ans, ils marchent, ils font faire leurs premiers pas, ils vont voir les animaux, ils traversent la route, ils vont dans les maisons des voisins qu'ils connaissent pas, et là-bas ils sont très protecteurs mais très très bienveillants. Ils prennent tous les enfants dans les bras énormément. Ils ne frappent pas les enfants. C'est interdit là-bas de frapper un enfant. Il y a plein de petites différences de culture
France,
dans l'éducation.
En France, on fait attention à la sécurité de nos enfants, mais en revanche, on continue à leur mettre des fessées, quoi. Tu vois, comme quoi, c'est paradoxal.
Entièrement, c'est vraiment paradoxal. Bah, tu vois, du coup, un peu le gap qu'il y a entre les deux. Et en fait, bah, tu vois, en l'espace de quelques jours, tu te dis, c'est pas possible, ça peut pas marcher, quoi. Moi, je vais trop stresser, je vais être lourd, on va scriper le chignon tout le temps, on va pas être d'accord. Il y avait même des sujets un petit peu ridicules, tu vois, sur la nourriture, par exemple. Là-bas, les enfants ont un côté assez enfant. Ils sont assez gâtés, et notamment avec la nourriture. Et tu vois, ils sont très autonomes. Très vite, ils ont un petit peu d'argent de poche pour aller s'acheter du chocolat. Quand ils ont envie de regarder une vidéo sur YouTube à 1 an, on leur donne le téléphone et on leur dit, et ils regardent. Et puis voilà. Et moi, c'est des trucs, ça le faisait pas. Et j'ai mis, je pense que c'était la période la plus dure en tant que père. C'était d'accepter tout ça, en fait. Déjà, d'une, d'accepter que je serais un papa à distance, que je serais un papa un peu gâteau, qui est là dans les bons moments, qui est là pour le plus de kiff possible, qui sera pas très sévère, qui pourra pas apprendre des... je pourrais transmettre plein de choses, mais pas des petites choses du quotidien. Bon, après, je compense à ma manière. Parce qu'on se voit quand même assez souvent. Et ça, c'était, cette différence d'éducation, c'était le truc le plus dur que j'avais à régler avec moi-même. Mais c'est un souci d'ego, en fait, finalement. Tu vois, et un souci d'ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, quand des gens me disent, ah, mais il est tombé par terre, il a marché sur les mains pendant une demi-heure et il se met les mains dans la bouche. Bon, c'est pas grave, il va survivre, tu vois. Là-bas, ils survivent très bien, ils le font tout le temps. Et ils grandissent bien, ils sont pas plus malheureux, quoi.
En fait, ce qui est marrant, c'est que t'as passé 1 an en Thaïlande, mais sans doute t'avais pas cet angle-là de la paternité, c'est ça?
C'est-à-dire pas
que
du tout.
T'as dû tout réapprendre de zéro une fois que t'avais l'angle de ok, désormais je suis papa, et peut-être je regarde comment ça se passe avec les enfants, c'est ça?
Ouais. Bah, l'avantage, quand même, c'était vivre 1 an là-bas, c'était quand même sur l'ouverture, la compréhension.
T'avais une base de culture, quoi.
Ouais. Et puis même, c'était une culture que j'aimais beaucoup. Finalement, à la fin, j'avais envie de rentrer, mais c'était pour d'autres raisons. Et du coup, j'étais hyper ouvert, en fait. Donc, des fois, les choses prenaient un petit peu de temps pour être assimilées, mais j'ai tout accepté. Donc, effectivement, être papa là-bas, c'est pas la même chose qu'être un touriste et prendre ton backpack et un petit scooter, tu vois. Mais ouais, j'ai vécu la culture vraiment encore plus de l'intérieur. J'ai appris énormément de choses sur les relations de famille, les relations sociales là-bas, et c'était très intéressant. Moi, je l'ai fait un petit peu, je dirais pas sous la contrainte, mais je l'ai fait parce que je devais le faire et que c'était important, Et aujourd'hui, c'est une force pour moi, en fait, je considère. Parce que,
tu veux dire cette ouverture d'esprit, c'est ça de...
Ouais. Mmh. Et être serein, quoi. Pas stressé pour des petits trucs.
Pourquoi ? C'est quoi le rapport ?
Bah, tu sais, les petits trucs. Ne pas voir son fils, tu vois.
Ah oui.
Tu vois, ne pas voir son fils à portée de vue, ouais. Le laisser prendre un scooter, le laisser s'approcher avec les animaux et les porter, faire des petites bêtises. Voilà. Enfin.
Comment ça s'est passé ? Parce que il manque un truc, en fait, mais.
Ouais, on est passé un peu vite.
T'es rentré, en fait, est-ce que elle t'a prévenu quand elle était déjà enceinte et donc
ouais.
Et toi tu as pu vivre l'accouchement là-bas?
Non.
Comment ça s'est passé?
En fait, j'y suis allé, ça s'est mal passé et je suis rentré très vite. Donc elle était enceinte.
Ok.
Et en fait, pendant jusqu'à son accouchement, on a eu très peu d'échanges. On était un peu vexés tous les deux, beaucoup d'incompréhension. Et en fait, la seule, elle m'envoyait une photo toutes les semaines de son ventre.
C'était votre seul quasiment.
J'avais quelques mots, mais c'était vraiment très très peu quoi. Moi, j'avais pas encore, j'avais pas encore tout
assimilé,
digéré quoi. Tu vois, j'étais encore dans le waouh, qu'est-ce que je fais avec elle, je m'entends pas du tout finalement, enfin on va jamais tomber amoureux. Et comme je te disais, tu sais, j'avais pas de modèle, tu sais, sur lequel me calquer. Et surtout qu'en plus à ce moment-là, ouais, je suis allé voir sur Google être papa en Thaïlande, ou j'ai eu un enfant en Thaïlande, et tu vois les pires histoires de oui. Mecs qui se sont fait qui ont eu des enfants dans le dos, qui ont eu des enfants qui n'étaient pas les leurs, des hommes qui ont eu un enfant et qui sont installés avec la maman, et après ça s'est tourné au vinaigre. Ouais. Mes parents toujours un peu sceptiques, et moi qui me dis de toute façon il faut que j'y aille, je vais pas accepter quoi.
Et est-ce qu'on peut préciser, juste petite parenthèse, je te coupe, mais ouais. Que en général les gens qui racontent leurs histoires sur internet, c'est pas forcément les gens pour qui ça se passe le mieux.
Ouais, clairement.
Et que de la même façon qu'il faut pas aller sur Doctissimo quand vous sentez que vous avez une douleur dans le bras, parce que sinon ils vont vous dire très vite que vous avez un infarctus. Je pense que c'est une bonne idée d'aller piocher des histoires, parce que ça sert aussi à ça Internet, et ça sert aussi à aller chercher des partages d'expériences. Mais en général, les gens qui ont tendance à raconter, c'est vraiment les cas les plus compliqués, quoi.
Ouais, carrément. Ouais.
Parce que quand ça se passe bien dans ta vie, tu vas pas venir raconter sur Internet, ça se passe bien dans ma vie et tout va bien, quoi. Enfin, d'une manière générale.
Ouais.
Pardon, je faisais une petite.
Non, mais t'as tout à fait raison. Quoi.
Pour les auditeurs.
T'as vraiment raison. Ouais. Et depuis, j'ai rencontré des papas très heureux qui ont eu des histoires un petit peu atypiques et puis qui sont venus s'installer là-bas. J'ai pu échanger, mais après. Au début, le frontal sur Internet, effectivement, tu l'as dit, c'est que le pire, on va dire un peu. Mais...
Et donc, la grossesse se passe à distance, pour le coup, ouais. Assez éloignée. Toi, tu es en plein marasme, tu te dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toute cette histoire, etc. Tu sais déjà que c'est ton enfant ou pas encore?
Non, je ne le sais pas encore. Okay. On n'avait pas pris le temps de le faire. Et en fait, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'avais encore des doutes. Et
ce que tu disais, sans doute, elle est en train de me faire un enfant dans le dos, comme tu disais.
Ouais, carrément. Ouais. Il y avait et puis j'avais encore des petits doutes sur le fait que même si on va dire que c'était clair dans la majorité que j'assumerais et que je trouverais une solution, j'avais encore des petits doutes sur le fait que est-ce que j'en ai vraiment envie parce que j'avais pas trouvé le bon chemin à prendre, tu vois.
22 ans en même temps.
Ouais.
22 ans. Vous étiez où, vous, à 22 ans? J'étais pas prêt à faire un enfant, en tout cas.
On n'est jamais prêt. Hein. Franchement.
Je suis assez d'accord avec l'idée.
On a 9 mois pour se préparer, je pense. Moi, du coup, j'ai eu un petit peu plus parce que, après quelques mois, après la naissance, bah, j'y suis retourné. J'y suis allé avec un ami qui se reconnaîtra. On a juste passé quelques jours. Dans le village natal de Praia. Et là, en fait, il s'est passé un truc assez énorme. Elle est venue nous chercher à la gare de train. On avait nos sacs à dos. Et lui était dans un petit landau. Et je le regardais un petit peu de loin. Je n'osais pas trop l'approcher. Et, Et au bout d'une heure, elle me dit, bah tiens, je dois aller faire une course, prends-le.
Ah.
Ouh. Et en plus, bah j'ai...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
J'avais pas spécialement d'empathie pour les enfants à l'époque. Vraiment, je te dis, je me posais pas la question. J'étais pas spécialement enjoué avec les enfants. J'avais pas cette fibre de j'adore les enfants. Ça a beaucoup changé depuis, mais à ce moment-là, j'avais pas du tout ça. Et donc au début, je stresse un peu. Faut que je tienne par la tête. S'il fait ça, je fais quoi? S'il pleure, ça veut dire quoi? Et elle m'explique en quelques phrases. Et là, il se passe un truc assez électrique, où il se met à dormir dans mes bras. Et moi, je me dis, je commence à avoir des fourmis, mais je reste là. Et au bout d'un moment, ça m'apaise, ça me fait du bien. Et quand il se réveille, il se met à me regarder, à me toucher le visage, à découvrir. À regarder un petit peu partout, à ouvrir la bouche, à faire des petites bulles. Et je sais plus exactement pourquoi quelqu'un me propose de le reprendre. Je pense que ça faisait bien une heure qu'on s'amusait entre père et fils. Et là, la personne me le reprend et il se met à pleurer. Et il se met à pleurer, pleurer fort. Et du coup, je lui dis je le reprends. C'est peut-être parce qu'elle était bien dans mes bras. Et dans la seconde où je le reprends, il s'arrête de pleurer. Et ce petit aller-retour, il a duré quasiment 24 heures. On prend la voiture, on va du coup chez sa grand-mère, on se prend un petit matelas, on dort, on fait la sieste sur un petit matelas de un lit de camp presque, tu vois. Et pendant 24 heures, on se quitte pas. Et même pour reprendre sa mère, c'était dur, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit... j'ai pas besoin de faire de test de paternité, tu vois, il s'est passé un truc, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus, mais peut-être que ça arrivera avec le deuxième ou mon prochain enfant, mais là je comprenais pas, mais c'était évident encore plus. Et là je dirais que la belle histoire a commencé, quoi. Et la belle histoire a commencé, mieux passé avec la maman, on s'est mis d'accord sur des petites choses comme le fait que j'allais soutenir financièrement, que on pourrait faire un Skype toutes les semaines, je pourrais donner des nouvelles, elle aussi, qu'on se débrouillerait pour faire un visa français, qu'elle pourrait venir, qu'elle pourrait en profiter, que si elle a des projets professionnels, je serais son premier fan.
Un truc de couple, quoi, finalement.
Ouais, presque. Mais sauf qu'on n'était pas en couple. Okay. On se faisait pas de bisous. On se faisait des câlins de temps en temps.
Parce que tu disais tout à l'heure, j'arriverai jamais à tomber amoureux d'elle. T'avais aussi ce fantasme de j'ai besoin que la mère de mon enfant, ce soit quelqu'un avec qui j'ai une relation, c'est ça?
Ouais, je pense. Mais j'ai la chance d'avoir des parents qui s'aiment encore beaucoup et qui m'ont fait croire en ce modèle-là. Donc forcément, j'ai envie de reproduire la même chose.
Les usurpateurs.
Et leur histoire, elle est très belle et je suis hyper heureux et hyper reconnaissant d'avoir des parents comme ça. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Je sais pas si c'est une chance d'ailleurs, mais moi je considère que c'en est une.
Je sais pas. Ouais. Si toi t'es heureux comme ça, je pense que c'est, ouais, c'est bien.
Il suffit d'être heureux. Et on a commencé petit à petit à accepter que on n'aura jamais notre maison à tous les deux, peut-être. Qu'on serait pas amoureux, qu'on referait sûrement pas d'autres enfants ensemble, que on a commencé à accepter ce genre de choses et ça se passait de mieux en mieux. Alors je te disais pas que tout était rose parce que oui, il faut pas donner de chocolat à un bébé ou parce que faut faire attention quand il traverse la route même s'il y a personne, même s'il y a une voiture qui passe toutes les 24 heures, tu vois, ou ce genre de petites choses. Mais c'était le début où tous les deux on s'est dit on va faire avec et du coup je suis rentré, ça se passait bien, j'ai commencé à en parler et j'ai eu deux chances. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit trop chouette, on y va, on fait un test de paternité, on va être là souvent, on va y aller, on va rencontrer tout le monde, on va lui donner envie d'aimer la France, on va lui donner envie de connaître mieux ses grands-parents, de connaître sa famille, de connaître qui il est. Et j'ai une deuxième chance, c'était mon manager de l'époque, qui s'appelait Gaston, et qui a eu un enfant très jeune. Et quand je lui en ai parlé, j'en avais parlé quasiment à très peu de gens dans ma boîte, parce que c'était encore dur d'en parler à l'époque, tu vois. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit mais attends, c'est une super nouvelle. Enfin, c'est pas, c'est trop bien, quoi. Il faut que tu sois heureux, faut que tu sois fier de ça. Et il m'a plus ou moins mis un petit challenge, c'était de me laisser un petit peu de temps pour annoncer la nouvelle de manière bienveillante et cool à tout le monde. Donc j'avais organisé un petit dîner avec un déjeuner avec mon équipe. On s'est retrouvé à 50, je crois. Et en plus, je devais faire un discours. J'avais la voix cassée parce que je m'étais cassé une corde vocale. Enfin, c'était un moment assez émouvant pour moi. Mais depuis, c'était une délibération parce que déjà, j'en parlais à 50 personnes d'un coup. Donc, j'ai su, mais c'est trop bien. Et puis en plus, les gens allaient mieux me connaître. Et c'est une partie de toi que tu peux... sur lesquels tu peux rester discret, mais il faut, quand les gens en sont conscients, ça facilite les relations, quoi, tu vois. Il y a de l'empathie qui se crée avec certains, la compréhension qui se crée avec d'autres, la bienveillance. Et ça, c'était un chouette moment, vraiment un chouette moment. Et petit à petit, j'y suis retourné avec mes parents, on a fait un test de paternité. Le test de paternité, c'est assez marrant d'ailleurs. Je sais pas si tu sais à quoi ça ressemble.
Rien.
Mais en gros, donc ils font une prise de sang sur la maman, l'enfant et sur le père. Et en fait, ils comparent des deux allèles du gène. Et en fait, ils ne peuvent pas garantir à 100% que c'est le papa. Mais la seule chose qu'ils peuvent te dire, c'est nous n'avons aucune preuve scientifique que vous n'êtes pas le papa parce que l'enfant doit avoir une allèle de chaque parent. Et du coup, la première phrase que j'avais lue sur le papier, c'était « Nous n'avons aucune preuve que vous êtes écarté, quoi. »
Oui, c'est ça.
Je sais comment je pourrais le formuler, parce qu'il y a une double négation. C'est
que vous n'êtes...
On ne peut pas garantir que vous n'êtes pas le papa. Voilà. Mmh. Voilà. Et du coup, c'était assez marrant.
Tu disais que toi-même, tu avais passé un cap dans ta relation, en tout cas, à cet enfant, et que tu disais limite que c'était plus une formalité qu'autre chose, c'est ça ?
Ouais, c'était vraiment une formalité. En plus, on en avait besoin pour faire son visa français. Donc, c'était le début d'une démarche administrative qu'il fallait faire. Alors, on est un pays un peu lourd, administrativement parlant. Pour mon fils, ça n'a pas été si long que ça, mais elle, pour venir et lui faire un visa, alors que c'est la mère de mon fils, c'était plus compliqué.
Ah ouais?
Ouais. Ça coûte du temps, de l'argent, faut être patient. Puis en plus, il y a la grosse barrière aussi de la langue et de l'alphabet, quoi. parce que l'alphabet thaï, je crois qu'il y a plus de 70 lettres. c'est et puis autant te dire que c'est pour nous assez illisible au premier abord. Donc il y avait un peu cette barrière là. Il faut faut avoir confiance en l'autre en fait. Faut se dire ok, elle gère ça, moi je gère ça. Elle fait la passerelle un peu sur des choses, moi je fais la passerelle sur des choses. Donc il y a eu une espèce de complicité face à toutes ces petites embuscades de la vie administrative et financière, et qui fait que bah on a créé une complicité en fait avec la mère, parce qu'on a traversé plein de moments pas très agréables, tu vois, prendre rendez-vous à l'ambassade, attendre une heure dans une salle d'attente, répondre à des questions hyper embarrassante du type est-ce que vous comptez vous marier ou est-ce que vous recouchez ensemble maintenant, enfin tu vois, on a eu des questions comme ça à l'ambassade de France, c'était quand même très particulier.
C'est pour
parce que ils veulent c'est notamment pour les pour tout ce qui est visa, ils veulent que les choses soient claires,
quoi, garantir, hein.
Ouais, okay. Donc tu vois, quand tu leur dis bah voilà, on est parents, on est à distance, elle vient pour les vacances, pour qu'elle puisse découvrir la France aussi, et puis mon fils voir ses grands-parents, hein, tu vois. Et puis en plus, moi je pouvais pas être garant financier parce que je venais de quitter mon job, je voulais monter ma boîte, ma toute première boîte, et bah du coup j'étais au chômage, du coup je pouvais pas être garant financier, du coup j'ai dû demander à mon papa, du coup mon papa a dû aller à la mairie. Et puis ouais, mon papa pareil, lui on lui demandait des fiches de paye, des trucs comme ça, quoi. Mais wow. C'est des petits trucs, c'est pas grand chose au final, tu vois. Il suffit juste de
montrer pas de blanche, mais ça, ouais. Ça nécessite un peu de temps, quoi.
Ouais, il faut pas lâcher en fait. Faut juste dire j'y vais, puis ça va le faire.
Comment s'est passé ce premier séjour en France ?
Le premier séjour en France, il a été assez incroyable.
Alors, le petit avait quel âge ?
Il avait 2 ans.
Ok.
Ouais. Il avait 2 ans et 4 mois, donc c'était il y a 2 ans maintenant. Il était venu tout le mois d'avril. Moi, j'étais allé 4 fois avant, dont une fois avec mes parents. On avait fait des vacances tous ensemble, c'était trop chouette. Et quand il est venu, c'était Disneyland au quotidien, quoi. Il découvrait, c'est vrai qu'il y avait un petit peu le côté grande ville où il faut faire attention. Il faut se méfier. Moi, j'étais un petit peu sur mes gardes, et puis en plus, on a pris un peu l'habitude quand même avec Praia, c'est que comme elle l'a 80% de l'année, quand elle vient ou quand moi j'y vais, je suis un papa et elle prend ses vacances, quoi. Donc c'était un petit peu stressant, surtout qu'en plus je voulais le présenter à tout le monde, on voulait faire plein de choses, j'avais la voiture, très compliqué de le mettre dans le siège bébé, enfin c'était il a jamais été attaché de sa vie, quoi, même dans un taxi il se met sur les genoux du chauffeur, quoi, presque. donc voilà, et en fait il s'est passé un moment assez chouette, je pense, et ça c'était un check dans ma to-do list. C'est que j'avais couru, j'avais une grosse passion pour le running. À l'époque, je courais beaucoup. Et du coup, j'avais envie de lui transmettre cette passion. Et j'ai trouvé une poussette un peu, la première poussette qui venait. Pas du tout une poussette de running. Et je l'ai mis dedans et on est allé courir 7 ou 8 kilomètres avec des copains avec qui j'avais trop envie de le présenter parce que ils le connaissaient. Enfin, ils le connaissaient. Ils avaient vu des photos, ils ont entendu parler. Et en fait, ça se passe super bien. Il adore ça. Il y a plein de gens qu'on court en groupe, tu vois. On a un groupe de running, donc on court en groupe. Mes amis étaient super bienveillants, donc ils s'assuraient régulièrement de courir et de voir si lui était bien dans la poussette. C'était pas tombé entre temps. Et puis en même temps, on lui a fait faire un parcours super sympa qui était les quais de Seine. En plein mois d'avril, il fait beau. Voilà. Enfin, c'était super moment, vraiment incroyable. Et 10 jours après, il y avait le marathon de Paris. Et je sais pas trop ce qui m'a pris. On est revenu avec la poussette. À la base, c'était surtout pour aller supporter des copains et se mettre sur le bord de la route et de lui faire profiter de cette ambiance extraordinaire qu'il y a au marathon de Paris, parce que t'as des milliers de gens dans la rue qui applaudissent, qui sont heureux, qui soutiennent. Enfin, moi, j'adore cette effervescence. Surtout que c'est pas du tout une c'est pas du tout guerrier comme tu peux avoir dans des sports d'affrontement, comme le football par exemple. C'est vraiment tous bienveillants, quoi. C'est va juste combat avec toi-même, allez, tu peux y arriver. Et donc on y va et on se pose à côté du 18e kilomètre. On voit plein de potes passer. Et c'était prévu que je cours un tout petit peu, quelques kilomètres. Et finalement, je me suis dit, allez, on va jusqu'au bout de la ligne d'arrivée.
Donc t'as couru 24 bornes, c'est ça?
Ouais, 24 bornes, ouais. En poussette. Les 10 premiers, ça se passe à merveille. Parce que il adore ça, les gens qui sont sur le bord de la route. Moi, je me mets un peu sur le côté parce qu'en plus, j'ai pas de dossard. J'ai pas envie de gêner les gens qui courent et tout. Et donc, il se met, tu vois, on court à côté de la route, puis on est à côté du public. Donc, je fais quand même très attention parce que des fois, tu sais, il peut y avoir des petits accidents. Mais lui, il se met à tendre les mains pour taper dans les mains de tout le monde. Il crie, il fait bravo, il adore ça, il est émerveillé, quoi. Et après, il s'endort pour 10 km suivants. Et il s'est réveillé, je crois, à 3 km de l'arrivée, dans le bois de Boulogne où il n'y a personne, il n'y a plus un chat. L'ambiance est un petit peu moins drôle parce que, voilà. Et là, il voulait aller sortir de sa poussette. Il n'en pouvait plus. Là, il n'en pouvait plus. Il avait chaud, il transpirait. Je lui donnais de l'eau, on s'arrêtait, on recommençait. Et j'ai croisé des copains où c'était cool. Eux aussi, ils ont participé un peu à ça. Et j'avais pas de dossard et du coup j'ai un très bon copain qui s'appelle Adrien, un mec génial, quoi, un mec en or, qui est passé à côté de la vie plusieurs fois et qui s'accroche, et un mec énorme. Et je lui dis, il avait une énorme pierre rouge sur la tête, je lui dis, bah tu vas le faire jusqu'au bout, tu traverses la ligne d'arrivée avec mon fils, parce que moi je pouvais pas. Donc il a fait les 200 derniers mètres avec lui. Moi j'étais sur le côté de loin, je regardais, puis lui, mon ami hyper fragile, qui me cherchait du regard un peu paumé, qui savait pas trop quoi faire, et puis mon fils qui voulait s'en aller. Et il a été adorable, Adrien. C'est, il lui a donné sa médaille, il lui a donné son t-shirt. Puis après, on allait faire la fête avec tous les copains, et ça, c'était un moment assez incroyable, quoi. Je sais pas s'il courra plus tard, j'essaie de lui donner envie.
Parce que là, il a 4 ans aujourd'hui, c'est ça?
Ouais, il a 4 ans et demi, ouais. Mm. Il est en hyper sportif, hyper actif, un peu comme moi, petit. Et il est très, très dynamique, donc je pense qu'il fera du sport plus tard. Et ça lui a donné un petit peu envie. Donc ça, c'était un peu son premier voyage. Et on a aussi vu toute la famille, les cousins, les cousines, tous les copains. J'ai vraiment essayé de voir tout le monde. Donc on avait un programme hyper rempli. Et c'était vraiment, vraiment très cool. Et il est revenu en France. Parce que il y a quand même un gros avantage sur le visa Schengen. C'est que c'est 90 jours. Et tu peux les placer comme tu veux dans une année.
Ah, okay.
Donc en fait, pour nous, c'était assez intéressant, parce que plutôt de se dire, on fait une fois 90 jours, bon, on va faire 3 fois 30. Et du coup, elle a pu venir plusieurs fois. Elle a pu venir plusieurs fois en France, et elle est revenue à Noël pour ses 3 ans. Et quand ils sont revenus, on est allé à Disney, on a fait plein de trucs de touristes, et puis Noël, quoi. Et ça, c'était aussi très chouette. Je me souviens en plus du moment où on est allé à Disneyland Paris le jour de ses 3 ans, vraiment le jour même. Et en fait, c'était normalement c'est gratuit pour les enfants, mais de moins de 3 ans. Mais en fait, c'était ses 3 ans, donc il avait plus de 3 ans.
Ils ont fait payer.
Ils nous ont fait payer, c'était un peu un scandale. J'ai utilisé Twitter, mais mais je n'étais pas très doué pour ça. Ça n'a pas marché. Même si j'avais le sourire, je disais quand même, vous pourriez être sympa. Ça n'a pas marché du tout. Donc faites attention si vous emmenez votre enfant le jour de ses 3 ans. Ouais, un jour avant et pas le jour. Non. Et puis à chaque fois qu'il vient, on essaye de faire plein de trucs. Et là, ce qu'on est en train de se dire avec mon père, c'est mes parents ont récemment acheté un appartement dans les Alpes, bah, essayer d'en profiter et de lui faire du ski. Donc, lui, les saisons scolaires sont décalées mars-avril pour eux, Enfin, c'est, ils ont un mois en octobre et ils ont un mois en, sur mars-avril. Et du coup, on s'est dit, bah, tous les ans, une petite session de ski entre mars et avril pour lui donner envie, pour lui faire découvrir ce que c'est. Donc, à chaque fois que je le vois, on essaye de faire un maximum de choses, quoi.
Vous voyez tous les combien de temps, là, maintenant, alors?
Alors, en ce moment, on se voit un tout petit peu moins parce que je travaille beaucoup et que financièrement, faut quand même s'offrir des billets d'avion.
Cher, non? Ça coûte combien?
En aller-retour, si tu te débrouilles bien, ça coûte 500 euros.
Ok.
Ouais. Mais bon, tu vois, tu fais plein de cadeaux, tu fais plein de sorties, tu fais plein de trucs. Avant, c'était tous les 3 mois. Là, en ce moment, c'est plutôt tous les 6. Je sais que la fréquence augmentera plus tard. Et puis, on a eu une conversation hyper intéressante avec sa maman. Elle a très envie que lui vienne faire ses études en France plus tard. Elle est consciente de la qualité, de la scolarité, et elle en a très envie. Donc, on commence à y réfléchir, on commence à en parler, à essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait essayer de s'organiser.
Dans quelques années, donc, c'est ça?
Ouais. Dès que les planètes s'alignent et on les pousse à bout de bras, on met toute notre force pour les pousser et les faire s'aligner. Elle notamment, elle s'est mise au tatouage. Donc elle a ouvert un salon de tatouage. Donc elle est en train d'essayer de prendre contact avec des tatoueurs français, essayer de voir comment est-ce qu'elle pourrait peut-être être salariée ou bosser pour un tatoueur ou ouvrir son propre salon. Donc on essaye de réfléchir à cette idée-là. Moi, de pouvoir être un tout petit peu plus serein financièrement parlant, parce que tu connais sûrement ça.
Monter ta boîte,
ouais.
Monter ta boîte, ça veut dire gagner peu d'argent.
Ouais, exactement, ouais. Exactement. Mm. Et c'est pas le chemin de la fortune, ça c'est clair.
Y en a pour qui ça marche, mais c'est ouais. Pas. On a souvent une idée un peu fausse du fait que tu montes ta boîte, d'un coup d'un seul tu deviens patron et ouais. Tu roules sur l'or.
Mais ça met beaucoup plus de temps à venir qu'on le croit au début, ouais.
Oui, et puis oui. Quand même, ça n'arrive jamais. Enfin, en tout cas, tu finis. Il y a assez peu de désignés qui finissent par faire vraiment fortune, quoi, si tu veux.
Ouais, carrément, ouais.
Puis il faut, comme tu dis, que les planètes s'alignent. Ok, donc, comment ça se passe aujourd'hui, votre relation avec ton fiston? Parce que, est-ce qu'il parle français avec toi, par exemple? Comment ça se passe? Vous parlez anglais?
Il commence à apprendre le français, gentiment, quelques mots. Mais j'ai la chance d'avoir sa maman qui parle très très bien anglais et qui lui parle beaucoup beaucoup en anglais. Et du coup,
toi, tu parles peu thaïlandais finalement, c'est ça?
Mais en fait, si je le parle un petit peu, je baragouine deux trois trucs. Puis surtout, j'ai appris quoi. Mais j'ai fait une rencontre avec une orthophoniste qui étudie beaucoup l'enfance. Et elle m'a appris beaucoup de choses sur l'éducation et notamment sur c'est la complexité de la langue, ouais, et l'apprentissage. Et elle m'a tout de suite conseillé de me concentrer sur l'anglais, vraiment de me concentrer pour lui apprendre cette langue-là, de lui montrer les barrières, de surtout pas essayer de lui apprendre le thaïlandais qui était pas du tout une langue naturelle et que je parle très mal finalement, et de pas me forcer à faire ça. Mais de me concentrer sur l'anglais, et dès qu'il commencera à avoir plutôt 7-8 ans, et que son cerveau pourra assimiler un petit peu plus de langue, de commencer à lui apprendre le français. Mais pour l'instant, anglais, et c'est trop cool le moment où Nakin dit « How are you, daddy ?» et qui commence à prononcer des phrases et qui comprend qu'il faut qu'il me parle en anglais et qu'on arrive à échanger, à se dire des choses. Ça, c'était vraiment des très bons souvenirs, quoi. De pouvoir communiquer, d'échanger par les mots, c'est vraiment, vraiment très chouette.
Elle se concrétise comment, alors, aujourd'hui, votre relation, maintenant qu'il grandit un peu?
À distance,
par exemple, vous parlez par Skype, c'est ça?
Ouais, on se fait des appels visio une fois par semaine.
Ok.
On essaye de prendre un petit peu de temps l'un pour l'autre. Bon, il y a le décalage horaire à gérer, mais on a trouvé nos créneaux. On se voit pas beaucoup, mais elle m'envoie des photos. Moi, je lui envoie des photos et je sais qu'elle lui parle de moi. Je sais que elle lui dit quand je lui envoie des choses. Je suis pas absent pour autant. Okay. Vraiment, je sais qu'elle me fait qu'elle m'intègre entièrement. Alors peut-être pas au quotidien, mais lui il sait très bien que j'existe et quand on se retrouve c'est des heures de rigolade et de on se lâche plus et on s'amuse, mais au final ça va plutôt bien, ouais, en
ce moment. Toi ça te va bien cette relation là et lui t'as la sensation qu'il s'y retrouve aussi, quoi. Enfin, en tout cas il est encore petit pour le
coup. Ouais, il est encore petit, je te dis, j'ai lâché beaucoup de j'ai assumé le fait que je serais pas du tout un papa dans les conventions, dans le cadre qu'on connaît, et je l'ai assumé et c'est vrai que effectivement je le vois pas beaucoup, je participe pas à tout, et pendant très longtemps ça a été un complexe. Sa mère, ça lui va très bien, enfin très bien, elle a accepté aussi parfaitement et elle préfère largement que je sois là, que je participe, que j'essaye de lui donner la culture française, que j'essaye de lui apprendre des choses sur la virilité, que je sois l'homme de temps en temps, que je lui fasse beaucoup de cadeaux, tu vois. Elle préfère largement ça que je sais pas, qu'on soit très fâché, qu'on se parle pas du tout, qu'on ait une mauvaise relation. Donc je pense qu'un jour on se rapprochera physiquement. Je te disais, on pense à l'éducation et on se dit que ça va venir. Mais à l'heure actuelle, on se contente de ce qu'on a et elle comme moi, on est très heureux dans notre vie, même si ça a mis du temps à venir parce qu'on a eu des moments un peu durs. Petit à petit, le chemin se trace, tu vois. Et...
Avant que je te pose ma dernière question, j'avais une question, c'était pourquoi t'avais honte ? En tout cas, t'étais embarrassé de venir raconter cette histoire au micro d'Histoire de Daron, ça m'intéresse.
C'est vrai, on en a très peu parlé un petit peu au début, mais tout au long, il y a beaucoup de jugements quand même. Quand tu en parles, quand tu touches sur ce sujet, j'ai eu des waouh, des mâchoires qui tombaient par terre, je te crois pas, montre-moi des photos.
Carrément.
Ouais.
Des preuves.
Ouais, carrément. Et ce qui est un peu fatigant, c'est, ce qui pouvait être un peu fatigant, c'est de toujours re-raconter la même histoire et d'avoir toujours des questions un peu improbables. Et au début, j'étais un petit peu sceptique. Ce qui m'a donné envie, c'était un peu ta bienveillance et les questions que tu posais aux autres papas que je trouvais cool. C'était posé et c'était pas du tout dans le choc, le je vais vous confier un dossier avec le titre un peu putaclic et tout ça, quoi. Alors que des mots clés,
oui, il y en a,
des mots clés, il y en a.
Ton histoire, il y en a.
Déjà, c'est pas un truc dont je me vante, donc je m'attendais pas trop à participer. Et en plus parce que j'ai eu des petites retombées qui étaient un peu fatigantes des fois, ouais. Et maintenant ça m'a passé, quoi.
Okay.
Genre ok, tu juges, tant pis pour toi, c'est toi qui es fermé d'esprit, c'est pas moi je suis bien et je m'éclate, quoi.
Tu sais pourquoi c'est important que tu viennes raconter ton histoire ? Je pense à toi qui va taper dans Google comment ouais. faire un enfant machin. Oh. Voilà une histoire positive, en fait, que tu as réussi à... Alors, on sent que ça a été un combat, ouais. pour toi et que ça n'a pas été facile, mais en tout cas, tu as réussi à en faire un truc positif, je pense, dans ta vie. Tu as l'air d'être serein avec ça.
Carrément.
Du côté de la maman et du fiston, ça a l'air d'aller bien aussi.
Ouais.
Et ça va sans doute faire qu'elle est de mieux en mieux. En tout cas, ça se sent.
Ouais, c'est sûr.
Donc, bravo pour ça. Et puis, merci d'être venu. La dernière question, c'est, imagine ton fiston, il écoute ça quand il a donc dans 10 ans, 14 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Peut-être même qu'il parlera français et tout.
C'est sûr, ouf. Ouais, il parlera français. j'ai envie de lui dire que je l'aime, tout simplement, et que même si on est à distance, il y a quelque chose entre nous, et que j'essaye de donner le meilleur quand je suis avec lui, quand je suis avec toi. Voilà, je te parle comme si. Et vraiment, je suis fier de lui, quoi. Je suis fier de lui parce que.
Je suis fier de toi, donc.
Ouais. c'est dur cet exercice. Ouais, je suis fier de toi, Anakin. T'étais un super bébé et tu grandis de manière trop chouette. Voilà.
Merci beaucoup, Barthélémy. Vraiment.
Et c'est moi qui te remercie.
Merci d'être venu sur Histoire de Daron.
Ouais, c'était vraiment un cool moment. Merci beaucoup.
Cool. Je vous souhaite à tous les trois une très belle vie. Merci beaucoup.
Merci. Salut. À plus.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron ou alors sur mon Instagram personnel. Je suis sur @fabflorent. Ça, c'est mon pseudo. FabFlorent. J'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit début juillet, Histoire de Daron ne s'arrête pas pendant l'été. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. Ça sera le premier lundi du mois d'août. Ça sera le lundi 6 août 2018. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.